On parle des fondements de la foi chrétienne. Nous sommes rendus à la semaine 4. Alors, vous avez reçu les thèmes. Alors, vous savez qu'on va parler du baptême d'eau et de la Sainte Cène, ce que la plupart d'entre nous connaissons déjà, mais ça va nous faire un rafraîchissement, ça va nous rappeler des choses et c'est toujours intéressant de réentendre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le baptême d'eau? C'est notre premier thème. Le baptême d'eau, c'est l'une des deux ordonnances que Jésus a données à l'Église, l'autre étant la Sainte Cène, puis on va la voir un peu plus tard. Alors, certains appellent le baptême d'eau un symbole ou un sacrement. Le baptême d'eau doit être pratiqué et compris à la lumière des Saintes Écritures. On ne baptise pas n'importe qui, ni n'importe comment, ni pour n'importe quelle raison. C'est selon ce qui est écrit dans la parole. Alors, c'est Jésus qui a institué le baptême d'eau. Et quand l'a-t-il institué? Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il est écrit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faire des disciples. Les baptisant, après, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on voit trois choses ici. Faire des disciples, les baptiser, les enseigner. C'est ce que nous faisons ici, à l'Église. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse! Nous ne sommes jamais seuls, il est toujours avec nous, Jésus. Jésus a prononcé ces paroles peu de temps avant son ascension, c'est-à-dire avant son retour au ciel auprès du Père. Puis, il ne faut pas confondre ce baptême que Jésus enseignait avec celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste exerçait le baptême de repentance. Il préparait le chemin pour le Messie, qui est Jésus. Mais c'était, il préparait le chemin pour le Messie à venir. Il faisait prendre conscience aux gens de leur état de pécheur pour les amener à la repentance puis à leur besoin d'avoir un sauveur. Il les préparait donc pour le Messie. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il n'a pas voulu baptiser Jésus quand il s'est présenté à lui. Il a commencé à lui résister, c'est même écrit dans la parole, il lui résista. Parce qu'il savait que Jésus était sans péché. Dieu lui avait révélé qu'il était l'agneau de Dieu. Il lui avait révélé que c'était lui le Messie. Il savait qu'il était sans péché et le baptême de Jean était le baptême de la repentance. De quoi pouvait-il se repentir? Mais Jésus a insisté, puis a dit à Jean, il faut que l'on fasse ce qui est juste. Il a insisté parce que Jésus voulait s'identifier à nous en toutes choses, sauf qu'il n'a pas péché. Le baptême d'eau que Jésus a ordonné, c'est différent. Ce n'est pas un baptême de repentance, parce que la repentance vient avant, au moment du salut. C'est là qu'on se repent, et c'est la repentance et la conversion. Et c'est là qu'on est sauvé, par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Mais le baptême vient après. Puis le baptême d'eau, c'est la démonstration visible, extérieure, publique, du changement intérieur qu'a produit le salut. Le salut par grâce au moyen de la foi en l'œuvre de Jésus. Le baptême ne sauve pas. Il ne fait que confirmer aux autres que la personne est sauvée. Maintenant, qui doit être baptisé? Selon Jésus, ce sont les disciples, c'est ce que nous venons de lire. Puis c'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les bébés. Dans Matthieu 28, 19, que nous avons lu, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est la première chose. Les baptisant, après on les baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prononça son premier discours sur le salut en Jésus-Christ, c'est écrit dans Actes 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Ils ont accepté la parole. Ils ont accepté la prédication. Ils ont accepté l'Évangile. Ils ont accepté le Seigneur Jésus. Et après, ils se sont fait baptiser. On poursuit la lecture du verset. « Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Ils ont d'abord cru, et c'est ce qui les a sauvés. Puis, ils se sont fait baptiser pour montrer publiquement qu'ils étaient devenus des disciples de Jésus-Christ, pour montrer leur engagement envers Jésus-Christ. Dans Actes 18, verset 8, nous avons un autre exemple. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. Et ils furent baptisés. Donc, ils ont cru, ils ont été sauvés, et après, ils ont été baptisés. Que symbolise le baptême d'eau enseigné par Jésus? Le baptême symbolise que nous sommes unis avec Christ dans sa mort au péché et dans sa résurrection. Romains 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le terme original grec « baptizo », traduit par « baptême », signifie « plonger dans un liquide, immergé et submergé », un peu comme un bateau qui coule. C'est pourquoi le baptême se fait par immersion sous l'eau, et non pas par aspersion d'eau ou par de l'eau qui coule sur le front, c'est vraiment immersion. La personne est plongée dans l'eau. Puis lorsque le chrétien est sous l'eau, cela représente sa mort au péché, à son ancienne vie. C'est là qu'il s'identifie à la mort de Christ. Il descend sous l'eau comme un noyé, il meurt, mais en Jésus, c'est symbolique, là, évidemment. On ne fait pas mourir les gens là, quand on les baptise. Là. Alors, c'est symbolique. Il descend dans l'eau, il meurt en Jésus-Christ, il s'identifie à la mort de Christ. Et lorsqu'il sort de l'eau, alors là, c'est la résurrection, il s'identifie à la résurrection de Christ. Il est né de nouveau, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus qui va vivre dorénavant pour Dieu. Son ancienne manière de vivre, c'est-à-dire ce que la Bible appelle le vieil homme, est resté dans l'eau, autrement dit, et il est mort à son ancienne vie. Dans Romains 6, versets 6 et 7, il est écrit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Le vieil homme, c'est la vieille nature, la vieille manière de vivre. « Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Un mort ne peut plus commettre de péché. » Alors que si on est mort au péché, si on est mort en Christ, on est mort également au péché. Lorsque le chrétien ressort de l'eau, comme je disais tantôt, bien, ça représente la résurrection de Jésus-Christ. Dorénavant, il marche en nouveauté de vie, dans le chemin que Christ a lui-même marché. Dans Romains 6, versets 8 à 11, il est écrit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Maintenant, plusieurs se demandent au nom de qui le croyant est-il baptisé? Jésus a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule baptismale enseignée par Jésus-Christ. Pourquoi? C'est très simple, parce que toute la Trinité divine est impliquée dans le salut. Nous l'avons vu dans les semaines précédentes. Père, Fils, Saint-Esprit sont à l'œuvre pour le salut de l'homme. Donc, ce n'est que juste que le baptême, qui est la manifestation publique de ce salut, qu'il soit fait au nom de la Trinité divine. Alors, certains vont dire, pourquoi que dans le livre des Actes et dans les Épîtres, nous trouvons des expressions telles que « baptiser au nom de Jésus-Christ », baptisé au nom du Seigneur Jésus, baptisé au nom du Seigneur. Ces expressions ne sont pas utilisées comme une formule baptismale. C'est simplement pour identifier le type de baptême. Parce qu'à l'époque de Jésus, du Nouveau Testament, il y avait trois types de baptême. Il y avait le baptême de repentance, qu'on a parlé tantôt, le baptême de Jean, de Jean-Baptiste, qui la personne se faisait baptiser par Jean-Baptiste, s'identifiait au message de Jean-Baptiste, puis la personne s'engageait à accepter le Messie une fois que son identité serait révélée. Il y avait aussi, deuxièmement, le baptême du prosélyte. Le prosélyte, c'est un gentil ou un non-juif qui se convertissait au judaïsme. Lors de ce baptême, il s'identifiait au judaïsme et au peuple juif. Et le troisième type de baptême, c'était le baptême au nom de Jésus-Christ. Le croyant qui se faisait baptiser s'identifiait, comme on a vu, à la mort et à la résurrection de Christ. Alors, lorsqu'on voit l'expression « baptisé au nom de Jésus-Christ »,« baptisé au nom du Seigneur Jésus »,« baptisé au nom du Seigneur », ce n'est pas la formule baptismale. La formule baptismale que Jésus a enseignée, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on voit les autres expressions, c'est pour expliquer, donner, identifier le type de baptême. Que ce n'est pas un baptême, le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême du prosélyte, c'est le baptême de Jésus-Christ. Maintenant, le baptême, c'est une décision personnelle. Tout comme le salut est une décision personnelle. On ne peut pas se faire baptiser pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne baptise pas les bébés et les petits-enfants. Parce qu'il faudrait qu'ils soient aptes à comprendre l'acte du baptême. Il faudrait qu'ils soient aptes, premièrement, à accepter le Seigneur, à comprendre le salut. Ils ne sont pas aptes et on ne va pas, en leur nom, les baptiser ou même accepter le Seigneur pour eux. C'est chaque personne qui doit faire son choix. Dans Actes 6, versets 36 à 38, il est écrit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Ici, on a un exemple. « Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. C'était la décision de l'eunuque. L'eunuque venait d'accepter le Seigneur, puis il voulait se faire baptiser. Et à ce moment-là, il n'était pas seul. Il avait tout son cortège avec lui, ses serviteurs. Il n'oubliait pas qu'il était dans un char quand Philippe est allé le rejoindre. Alors, il a été un témoignage face à eux. Il voulait témoigner qu'il venait d'accepter le Seigneur. Il voulait le manifester publiquement. Et la meilleure façon, c'est par le baptême. Et après, c'est par notre vie sanctifiée, bien sûr. Donc, se faire baptiser, c'est une décision de chaque croyant que chaque croyant doit prendre par lui-même, tout en sachant que Jésus l'a ordonné. Donc, c'est par obéissance à Jésus qu'on décide de se faire baptiser après être sauvé, évidemment. Maintenant, nous sommes rendus à qu'est-ce que la Sainte Cène, notre deuxième sujet de la soirée. La Sainte Cène, c'est la deuxième ordonnance que Jésus a instituée pour son Église. Ordonnance ou, comme certains l'appellent, sacrement, mais il y en a seulement deux. Le baptême d'eau et la Sainte Cène. La Bible emploie plusieurs expressions pour décrire la Sainte Cène. Par exemple, l'Eucharistie, qui signifie action de grâce, dans Matthieu 26, verset 27. La communion, dans 1 Corinthiens 10, verset 16. La table du Seigneur, dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, verset 20. Et la fraction du pain, dans Actes 20, verset 7. Voyons voir dans Luc 22, le verset 17 à 20, ce qu'est la Sainte Cène. C'est écrit, « Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, » c'est Jésus qui parle, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Tout le monde prenait la coupe. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette scène se déroule pendant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Jésus va être arrêté peu de temps après, au début de la nuit. Jésus a donné la Sainte Cène en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il s'agit donc d'un mémorial, c'est-à-dire un geste qui rappelle ce que Christ a fait pour nous. Cette ordonnance ne se limite pas aux disciples présents à ce moment-là. Certains avancent cette fausse doctrine, que c'était juste pour le temps de Jésus, c'était juste pour les disciples à ce moment-là. Mais c'est encore vrai pour nous aujourd'hui et pour toute l'ère de l'Église. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 23-25, Paul reprend ses paroles. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, c'est encore pour nous aujourd'hui. C'est pour tous les chrétiens. Et nous voyons dans ces passages que les deux éléments, il n'y a que deux éléments à la Sainte-Cène, c'est le pain et le vin, plutôt le fruit de la vigne. Donc, puisque c'est le fruit de la vigne, ça peut être du jus de raisin et du vin. C'est, le jus de raisin vient aussi de la vigne. Puis, tout comme le baptême est symbolique, la Sainte-Cène l'est aussi. Le pain représente le corps de Christ qui a été meurtri à la croix, puis le vin représente son sang qui a été versé. Nous savons que l'Église catholique romaine enseigne la transsubstantiation, selon laquelle le pain et le vin deviennent réellement la substance du corps et du sang de Jésus, mais cette doctrine relève du mysticisme catholique romain et non des Saintes Écritures. Elle contient l'idée que le sacrifice de Jésus-Christ se renouvelle à chaque fois que l'Eucharistie est célébrée. Or, la Bible enseigne clairement que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait une seule fois, de manière définitive, qu'il n'a pas à être renouvelé et qu'il est valable éternellement. Merci, Seigneur. Dans Hébreux 7, verset 27, il est écrit, « Il n'a pas besoin, comme on parle de Jésus, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, parce que Jésus n'en avait pas, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes. » Une fois pour toutes, point final. « En s'offrant lui-même en sacrifice », dans Hébreux 7, verset 27. Remarquez qu'il s'est offert lui-même. Personne ne l'a poussé. Personne. C'est pas vrai que c'est les Romains qui l'ont saisi, qui l'ont obligé. Il s'est offert. Parce qu'il s'y aurait voulu, comme il l'a dit lui-même, il n'aurait pas appelé une légion d'anges qui serait venue le libérer. Il s'est offert lui-même par amour pour nous. C'est quelque chose quand on y pense. Hein? Hébreux 9, verset 24 à 26. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable. Le véritable, c'est celui qui est au ciel. Mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Son sang, il l'a offert devant son Père. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien, le sang des animaux à l'époque. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, c'est notre époque, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Selon la Bible, la fin des temps, c'est à partir du moment où Jésus-Christ est venu sur la terre. Hébreux 10, verset 10, « Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Merci, Seigneur. Lorsque Jésus institua la Sainte-Cène, il était évident pour les disciples à ce moment-là que c'était symbolique, parce qu'il était présent parmi eux. Son corps n'avait pas été encore rompu, ni son sang versé. Donc, c'était sûr, pour eux, c'était symbolique. Et ça l'est encore pour nous aussi. Maintenant, quels sont les objectifs de la Sainte-Cène? Pourquoi Jésus a institué la Sainte-Cène? Il y a quatre objectifs. Le premier, se rappeler la vie et la mort de Jésus, afin qu'on n'oublie jamais ce qu'il a fait pour nous. Dans Luc 22, verset 19, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de qui? De moi, de Jésus. » La Sainte-Cène a été établie pendant le repas qui précéda la Pâque juive. Cette fête commémorait la sortie d'Égypte du peuple juif, la Pâque juive. Puis la nuit précédant leur libération, les Juifs, c'est dans Exode, si vous lisez Exode, Dieu leur a ordonné de sacrifier un agneau, puis de répandre son sang sur les linteaux de la porte de chaque maison des Israélites. Les linteaux, c'est tout le tour. Nous, on dirait les cadrages. Pendant la nuit, l'ange de la mort est venu chercher les premiers-nés de toutes les familles qui n'avaient pas de sang sur les portes. Autrement dit, chaque premier-né d'Égypte a été emporté par la mort, tandis que les premiers-nés israélites ont été épargnés grâce au sang de l'agneau immolé. Cet agneau préfigurait le sacrifice de Christ sur la croix. Dès le lendemain matin, le Pharaon a relâché le peuple d'Israël. Voyez le rapport? Le sacrifice de Christ à la croix nous libère du péché et de la mort, nous libère de ce monde. Jésus a transformé le rituel pascal en une cérémonie tout à fait différente, un mémorial de sa mort rédemptrice. Il a changé, ce n'est plus... La Pâque juive se célèbre encore dans le peuple juif. Ils attendent toujours leur Messie. Mais Jésus lui a transformé ça pour un mémorial de sa mort rédemptrice. Le but de la Sainte-Sainte, c'est de se rappeler le sacrifice de l'agneau parfait de Dieu qui est mort pour nous, sa mort substitutive, afin qu'on ne l'oublie jamais. Le deuxième objectif, c'est d'annoncer le fondement de l'Évangile en proclamant la mort du Messie. 1 Corinthiens 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur. » C'est grâce à la mort substitutive de Christ que nous sommes sauvés. Donc, en prenant la Sainte-Cène, on se rappelle ce qu'il a fait, mais on proclame également le salut en Jésus-Christ. Parce que si nous le faisons, c'est parce que non seulement nous le croyons, mais nous faisons un acte visible que les gens peuvent voir. Et tout comme le baptême montre qu'on a donné notre vie au Seigneur, la Sainte-Cène montre que nous proclamons la mort de Jésus, nous nous rappelons la mort de Jésus qui est pour notre salut, qui est mort pour, à notre place, pour nos péchés. Puis dans ce même verset, nous voyons le troisième objectif, stimuler l'attente du retour de Christ. Parce que c'est écrit « jusqu'à ce qu'il vienne ». Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous célébrons le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, ce qui nous rappelle, à chaque fois qu'on le célèbre, il faut toujours penser, on célèbre la Sainte-Cène, on se rappelle la mort de Christ, on proclame que sa mort, c'est ce qui nous a sauvés, mais en même temps, on proclame aussi qu'il a promis de revenir. Il a promis de revenir puis qu'il va le faire. Mais comme nous ignorons le jour et l'heure de son retour, bien évidemment, nous devons toujours être prêts en marchant chaque jour dans la sanctification. Et nous savons que nous sommes beaucoup plus près aujourd'hui de son retour qu'il y a 2000 ans, lorsque ces choses ont été écrites. Alors soyons prêts, marchons dans la sanctification. Et le quatrième et dernier objectif, rappeler l'unité du corps de Christ qu'est l'Église. Dans 1 Corinthiens 10, verset 17, « Il y a un seul pain, aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. » Le pain, c'est le corps de Christ, c'est le salut, ça représente le salut. Tous les croyants, tous les véritables disciples de Christ sont unis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui nous unit, nous, ici? Nous sommes tous, nous venons de villes différentes, nous avons des vécus différents, nous venons d'endroits différents, nous avons des ancêtres différents, nous avons des cultures différentes, des éducations différentes, mais qu'est-ce qui nous unit tous? C'est Jésus-Christ. C'est sa mort. C'est sa mort en Jésus-Christ, c'est le salut. C'est ce qui nous unit. Donc, nous formons le corps spirituel de Christ, sans égard de la race, du sexe, de la position sociale. Comme c'est écrit dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, dimanche qui vient, on va prendre la Sainte-Cène. C'est le premier dimanche du mois. Gardez en tête ces quatre objectifs. On se rappelle la vie et la mort de Jésus. On proclame la mort du Messie, le salut, que c'est que par sa mort nous sommes sauvés. Nous nous souvenons de sa promesse de son retour, qu'il revient, oui, il revient, puis que nous sommes unis par ce salut. Donc, c'est très important, la Sainte-Cène, quand on saisit vraiment le sens, pourquoi Christ nous a ordonné cette Sainte-Cène, nous réalisons à quel point c'est important. Tout tourne autour du sacrifice de Jésus, de ce qu'il a accompli pour nous et de ce que ça produit dans notre vie, même en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Maintenant, où et quand devons-nous prendre la Sainte-Cène? Commençons par où? L'endroit. Dans les évangiles, au moment où Christ a ordonné la Sainte-Cène, il était à table avec ses disciples. La table nous parle d'un lieu de communion avec le Christ et entre les disciples. Nous prenons donc la Sainte Cène lorsque nous nous assemblons avec les frères et sœurs chrétiens, avec le corps de Christ. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il ne convient pas de prendre le repas du Seigneur seul à seul. On reste chez soi, on est avec un autre chrétien, puis on dit on va prendre la communion. Là. Nous, on ne communie pas à l'Église. Cela doit se faire à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur du corps de Christ. Un groupe de personnes participait au repas du Seigneur quand Jésus a institué. Alors, nous aussi, par conséquent, le repas du Seigneur devrait avoir lieu de préférence lorsque l'Église se rassemble. Il ne devrait pas se dérouler en privé, en présence de quelques personnes, sauf dans des cas d'exception. Évidemment, par exemple, lorsqu'un frère est alité par la maladie puis qu'il aimerait communier, le pasteur avec quelques membres d'Église peuvent se rendre à son chevet puis communier avec lui. Ou dans certains pays où est-ce qu'ils peuvent pas avoir, ils n'ont pas notre liberté à nous de se réunir tous ensemble dans un groupe, mais qu'ils doivent se réunir juste par petits groupes parce qu'ils doivent se cacher. Oui, ils peuvent communier. Il y a des cas d'exception. Mais ici, on parle de la règle générale. Si on voit ce que Jésus nous a montré, c'est pour, puis avec les objectifs qu'on a vus tantôt, l'unité du corps de Christ, c'est à l'intérieur du corps de Christ, à l'intérieur de l'Église, que devrait se passer la Sainte Cène, qu'on devrait prendre la Sainte Cène ensemble, pour se réjouir ensemble aussi. C'est un moment de réjouissance. Maintenant, la fréquence. L'Église primitive prenait la Sainte Cène sur une base régulière, selon ce qu'on peut voir. Mais ce n'est pas dit que c'était à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois, aux deux mois. Ce n'est pas mentionné. Dans Actes 20, 7 et 8, c'est écrit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Mais ce n'est pas écrit comme d'habitude. Dans Actes 2, 42, c'est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Ils persévéraient. Donc, ce n'était pas juste une fois, c'était souvent, mais ils ne disent pas combien de fois, puis ils ne disent pas la fréquence. Il n'existe aucun commandement spécifique qui indique le nombre de fois où le repas du Seigneur devrait être pris. Chaque église locale établit ses propres règles. On peut le prendre à tous les jours, on peut le prendre une fois par semaine, une fois par mois, une fois aux deux semaines. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ça ne devienne pas un rituel routinier. Ça, c'est le danger. Il ne faut pas que ça devienne un rituel qui n'a plus aucune signification. Ah, c'est la Sainte-Cène cette semaine, OK, comme la semaine passée, OK. Non, il faut, comme on a vu tantôt, se rappeler les objectifs. Pourquoi Christ l'a donné? C'est pas pour rien, parce qu'on oublie tellement facilement. On oublie tout le sacrifice qu'il a accompli. On oublie tout ce qu'on a eu comme bénéfice de ce salut. Alors, c'est bon de se le rappeler, mais il faut que ce soit un moment particulier, la Sainte Cène. Il faut vraiment que ce soit un moment où on est tous réunis ensemble et qu'on ressent vraiment le corps de Christ, l'unité du corps de Christ réunis. Pourquoi? Parce qu'on a tous été sauvés autour du sacrifice de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Alors, c'est très important que ça ne devienne pas une routine, mais qu'à chaque fois, ce soit un moment particulier et privilégié. Parce que c'est un privilège que nous avons de communier avec le corps de Christ, avec le sang de Christ, le corps de Christ qui est mort, qui a été brisé pour nous. Quel grand sacrifice! Maintenant, qui peut participer à la Sainte Cène? De par sa définition qu'on a vue, il est évident que seuls ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui en comprennent vraiment la signification, peuvent prendre part à la Sainte Cène. Cette ordonnance est donc réservée aux croyants seulement, les croyants nés de nouveau. Cependant, il faut se préparer. On ne prend pas la Sainte Cène indignement. Il y a un avertissement dans la parole. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre, comme je disais tantôt, comme un rituel, dans l'indifférence, avec un cœur non repentant, avec du péché, avec un esprit d'amertume ou toute autre attitude qui est indigne de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, versets 26 à 30, il est écrit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Donc, avant de participer à la table du Seigneur, chacun doit s'éprouver, c'est-à-dire s'examiner. On doit se poser les questions suivantes. Est-ce que ma vie spirituelle est en ordre? Est-ce que j'ai du péché? Je demande pardon au Seigneur. Est-ce que je reconnais et que je comprends que le pain et le vin représentent l'expiation que le Seigneur a fait à la croix, qu'il accomplit pour mes péchés? S'il y a du péché dans ma vie, je dois le confesser et demander pardon à Dieu avant de prendre part à la Sainte Cène. Et je dois le faire honnêtement et sincèrement, pas juste parce que je veux participer. Dieu va discipliner ceux qui traitent à la légère le repas du Seigneur, ceux qui ne font pas d'examen de conscience, puis ceux qui le prennent de façon indigne. Nous avons vu dans ce passage-là qu'il y a un jugement, qu'il y a la faiblesse physique, la maladie, la mort physique. C'est pour quelqu'un qui, ça peut aller jusqu'à la mort physique, quelqu'un qui prend indignement le repas du Seigneur. Et le Seigneur veut que l'on communie, parce qu'il dit, quand il dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, il veut qu'on s'éprouve, il veut qu'on se mette en règle, et après qu'on puisse prendre le pain et qu'on boive la coupe, parce qu'il veut qu'on participe, il ne veut pas qu'on se mette à part, il veut qu'on soit en parfaite communion avec lui, qu'on soit en règle avec Dieu, et qu'après on participe à la Sainte Cène. C'est tout pour ce soir.